France Inter.
Toutes tes idoles sont déjà mortes, et leurs chansons en quelque sorte sont des prières que tu récites quand dans ta tête tout va trop vite. T'as calqué leur tic, leur dégaine, t'as pris leur manière à l'ancienne, et tu assures avec panache pour oublier que tu te sens lâche. Tu voudrais revenir en arrière, dormir dans le ventre de ta mère, refaire ta vie sans avoir peur, sans toutes tes conneries, tes erreurs. Mais tu te résignes sans y croire, en chantant tout ton désespoir sur une vieille mélodie, une suite d'accords défraîchis. Tu repenses au jour où tu croyais être aussi beau, être aussi vrai que ces poupées de paraffine, ces demi-dieux de magazine, perdus dans ton monde lointain, vivant seul au creux de ta main. T'as fait le deuil de tes rêveries, intrus dans ton propre pays. Toutes tes idoles sont déjà mortes, et leurs chansons en quelque sorte sont des prières que tu récites quand dans ta tête tout va trop vite. T'as calqué leur tic, leur dégaine, t'as pris leur manière à l'ancienne, et tu assures avec panache pour oublier que tu te sens lâche. Pour toi l'amour devient un jeu dès qu'un regard croise tes yeux. Usant de mille stratégies, tu gagnes à chaque fois la partie. Quand arrive la grande finale, tu les mords comme un animal et tu disparais dans la nuit jusqu'à ta prochaine lubie. Tu n'aimes pas voir des gens qui pleurent, ça réveille en toi la douleur de l'enfant devenu trop grand qui a appris à s'armer jusqu'aux dents, paré à tout faire exploser pour une fois de plus nous prouver qu'il est un soldat solitaire, un vagabond au cœur de pierre. Toutes tes idoles sont déjà mortes, et leurs chansons en quelque sorte sont des prières que tu récites quand dans ta tête tout va trop vite. T'as calqué leur tic, leur dégaine, t'as pris leur manière à l'ancienne, et tu assures avec panache oublier que tu te sens lâche. À force de chérir le passé, on finit seul épuisé. Un jour il faut faire la paix avec ses peurs, avec ses regrets. Il faut apprendre à dompter la bête blessée qui sommeille en nous avant qu'elle détruise tout. Toutes tes idoles sont déjà mortes, et leurs chansons en quelque sorte sont des prières que tu récites quand dans ta tête tout va trop vite. T'as calqué leur tic, leur dégaine, t'as pris leur manière à l'ancienne, et tu assures avec panache pour oublier que tu te sens lâche.
Toutes les idoles sont déjà mortes, c'est Pierre Lapointe. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Je devrais dire Pierre-Luc Jean.
Pierre... C'est vrai que c'est mes noms sur mon baptistère. Vous savez ça, vous?
Ben oui, et c'est drôle parce que vos parents ne sont pas spécialement croyants.
Ben, mes parents, non, pas tant. Mes parents ont été élevés dans la religion catholique, comme c'était le cas pour à peu près tout le monde au Québec durant des décennies, voire des siècles. Et comme la majorité des Québécois, ils se sont défaits de cette espèce d'emprise. Donc, je porte en moi cette culture catholique de culpabilité très lourde avec des Jésus ensanglantés. Mais personnellement, et ma famille, je vais dire ça assez crûment, mais on en a un peu rien à foutre.
Oui, la religion n'est pas une préoccupation de Pierre Lapointe.
Ben non, en fait, moi, dans ma tête, la religion, c'est poison, mettons. Bon, les gens ont le droit de croire à ce qu'ils veulent, mais moi, personnellement, je me tiens loin de tout ça.
Donc, vous êtes presque un rebelle.
Oh, oui, aujourd'hui, c'est même plus de la rébellion de plus prendre la religion au sérieux. Chez nous, on est quand même une province qui s'oppose à l'oppression religieuse.
Juste une petite question sur les États-Unis.
On n'a pas le choix d'en parler. Tout le monde parle de lui.
Oui, j'ai un peu envie de vous demander comment vous vous sentez face à Trump élu, qui signe des décrets.
Qui signe des décrets qui passeront peut-être pas, faut préciser, c'est le propre de sa démarche, c'est beaucoup de fumée, beaucoup de spectaculaire. Bah, je pense que c'est assez clair qu'en tant que Canadien, un pays où on a des programmes sociaux, où on est quand même de nature et historiquement très accueillant, c'est sûr qu'on regarde ça avec découragement. Maintenant, la droite monte partout chez nous aussi. Il y a des discours homophobes, racistes, faussement protectionnistes qui commencent à émerger de partout.
Ce qui est incroyable, au Québec notamment.
Ce qui est difficile à croire, mais qui existe. Et puis, il y a même des Trumpistes chez nous. Hein. Maintenant, là, ce qui nous a fait beaucoup rire, et ce qui a choqué, et ce qui au départ paraissait farfelu, qui a fini par devenir un scénario qu'on se dit, ben, ça se pourrait peut-être si vraiment il se donne la peine. Il a évoqué le fait de faire du Canada un 51e État américain, ce qui est inconcevable pour nous. C'est étrange d'être dans une dystopie aussi brillante et patente.
Oui.
Je ne pensais pas vivre ça. On dirait qu'on est dans un mauvais film.
Voilà. Est-ce que ça vous donne envie de vous engager d'une manière ou d'une autre, et peut-être d'abord dans vos chansons ?
Je l'ai toujours été. D'ailleurs, par rapport à la question de l'homosexualité ou de la communauté...
C'est un engagement politique.
Oui, et j'ai été un des premiers dans la francophonie à écrire des chansons d'amour entre hommes. Les premières fois que je l'ai fait, ça fait plus de 10 ans. À l'époque, il n'y avait pas Edith de Préto, il n'y avait pas Angèle, il n'y avait pas Safia Nolin, il n'y avait pas Pomme, j'étais seul. Les seules chansons où on parlait d'homosexualité, ça remontait à plusieurs années. Ici, il y avait la merveilleuse chanson d'Aznavour, comme ils disent, mais qui décrit quand même une réalité qui n'est plus tellement vraie.
Non,
c'était un peu
les travestis de l'époque, et puis c'était une réalité tragique.
Tragique.
Vous, c'est pas tragique, l'homosexualité?
Ah non, moi c'est beau, c'est tendre, c'est doux, c'est normalisé chez moi.
Mais Pierre Lapointe, vous, la chanson, c'est vraiment un grand terrain de liberté, j'allais dire, éditorial.
Oui.
Est-ce que vous avez des interdits quand même, des tabous que vous n'abordez pas? Parce qu'on a tellement l'impression que Pierre Lapointe est libre.
Pas tellement. Ben, la chanson, il faut que... Le défi quand on écrit des chansons, c'est de trouver un angle que personne n'a jamais trouvé pour parler du même sujet que tout le monde a déjà épuisé.
C'est très difficile.
Donc, à partir du moment où on est dans cette dynamique-là, on se dit, il faut que je sois intéressant. On se donne le droit d'aller partout, même dans une intimité très intime, sans pudeur. Je pense à une chanson qui s'appelle « Quelques gouttes de sang » où je parle de quelqu'un qui m'a laissé, puis je dis « t'as pas le droit de me laisser, on laisse pas un gars comme moi ». C'est le petit égo d'enfant qui parle, et à un moment je dis « c'est pas grave parce qu'à tous les soirs je me branle en pensant à toi et durant ce moment-là, tu m'appartiens encore ».
Je tiens à dire que Pierre Lapointe peut être cru dans ses chansons.
Oui, en même temps c'est la vie, puis qui a jamais pensé à un ex le soir, en se caressant, en ayant l'impression qu'il lui appartient encore, ça, pour moi, c'est être vrai et pas avoir peur de dire les choses.
Mais quand vous chantez ça au Canada, vous êtes premier francophone.
Oui, cette chanson-là, maintenant, elle passe pas sur les radios, mais...
Elle choquerait pas?
Non, ça choque pas. Non, ça choque pas du tout. Chez nous, c'est le nouveau monde, hein. On se fait moins chier avec les trucs de qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se dit pas, l'étiquette. Oui. On est dans quelque chose de beaucoup plus spontané.
Surtout à Montréal.
Surtout à Montréal, oui, mais un peu partout.
Ça fait plaisir d'abord de vous recevoir.
Moi aussi, je suis très heureux d'être là.
D'échanger avec vous, Pierre Lapointe, surtout que vous venez de chanter à la Maison de la Radio dans le cadre de l'Hyper Weekend Festival.
Oui.
Et vous sortez un disque, surtout. C'est pour ça aussi qu'on vous voit en France. Il a un titre incroyable, ce titre à rallonge. 10 chansons démodées. Pour ceux qui ont un cœur abîmé. Comment il est venu, ce titre ?
Je voulais un titre extrêmement long, parce que je voyais que les chansons allaient être intenses, dans le sens positif.
Intense et intime, comme toujours.
Ouais. Mais je voulais un titre long pour... Je trouvais que c'était un anti-caste de bons titres publicitaires. Et que parce que le titre était très long, ça devenait un titre très accrocheur, justement. Et j'ai moi-même... J'ai pris les devants, comme c'est... Sur l'album, il y a des chansons, j'ai envie de dire, avec une facture d'une autre époque, même si elles sont très, très contemporaines, très, très actuelles. J'ai utilisé des processus de création, puis des procédés d'écriture et d'arrangement avec Philippe Brault, qui a réalisé l'album, qui a arrangé les instruments, qui appartiennent à une autre époque. Donc, j'ai tout de suite tagué le truc. J'ai dit, c'est des chansons démodées et elles sont tristes. C'est pour les gens qui ont le cœur abîmé. Voilà,
vous avez raison, on sent l'amour que vous portez à des gens comme Barbara, Brel. Il m'a semblé reconnaître à un moment un peu Julien Clerc dans des envolées de cordes. On peut penser parfois à Nougaro, vous allez vers la bossa si vous avez envie de dire des choses en bossa, Pierre Lapointe. Vous ne vous refusez rien et surtout vous regardez derrière tout en disant, et je pense à cette chanson sur les idoles qu'on vient d'écouter, tout en disant attention, la nostalgie, pas trop, il faut regarder devant. Il ne faut pas avoir peur du présent et de l'avenir.
En fait, je suis au courant de tout ce qui se passe. Et moi, je suis un enfant de Brel, de Barbara, de Gainsbourg, de tous ceux que vous avez nommés, et aussi des Québécois, oui. Jean-Pierre Ferland, Robert Charlebois, Claude Léveillé, je pense à Pauline Julien aussi, des grands chanteurs, des grandes chanteuses de chez nous, Diane Dufresne. Pour savoir où on se situe aujourd'hui et pour sentir ce qui s'en vient, il faut savoir ce qui s'est passé avant. Et moi, je l'ai décortiqué, le passé en musique. La musique francophone, je suis devenu, sans même m'en rendre compte, une sorte de petit spécialiste. Tellement passionné que j'ai non seulement acquis des connaissances, mais j'ai intégré ces connaissances-là à mon travail. Ce qui fait que quand j'ai décidé de faire des clins d'œil à la grande chanson française d'une autre époque en écrivant, j'étais totalement contemporain, mais j'ai fini par évoquer tous ceux que vous avez nommés.
Oui. Simplement dans la musique, dans les envolées de cordes que je citais, dans le piano, qui est votre deuxième voix sur ce disque. Mm-hmm. C'est pas vous d'ailleurs qui jouez. Hein.
Non, c'est Amélie Fortin qui m'accompagne en tournée.
Et d'ailleurs. Les cordes, ce sont des femmes aussi.
Oui, il y a beaucoup de femmes sur l'album et sur le spectacle aussi. Je suis entouré de beaucoup de femmes sur scène. Et j'aime bien cette idée parce que pendant des années, les femmes en musique pop étaient, en chanson, étaient un peu inexistantes quand c'était pas les solistes en avant. Donc moi, j'aime bien ramener des femmes sur scène.
Et vous voulez qu'on écoute un peu de la musique d'aujourd'hui que France Inter aime bien parce que vous avez un peu fouillé dans notre playlist, comme on dit. Et puis, vous avez retenu notamment Mickey.
Oui.
Dites-nous qui est Mickey et ce qu'elle chante.
Mickey, elle a pas beaucoup de chansons sorties encore. Je suis tombé sur une de ses chansons sur Instagram il y a quelques mois. J'ai eu un méga coup de cœur. J'ai trouvé que ses textes étaient bien ficelés, qu'elle est totalement de sa génération et le son est totalement actuel. Et en même temps, il y a une, j'ai envie de dire, une dextérité, une virtuosité dans sa façon d'amener ses textes qui m'a un peu jeté à terre. Je lui ai écrit, j'ai publié une story.
Ah, vous êtes très story, vous,
ouais,
Pierre Lapointe.
Oui, on n'a pas le choix en 2025 si on est chanteur d'être très story et très reels. Donc j'ai publié un petit bout d'une de ses chansons en disant allez écouter, puis on s'est mis à s'écrire. Donc beaucoup de respect pour...
Chanteuse, productrice franco-coréenne et fan de techno, entre autres. On écoute Mickey, elle chante Cartoon Sex.
Je vois ma vie comme un jeu sur Nintendo. On s'amuse bien, mais je suis souvent qui bloque. Je veux qu'on m'éjecte sans cliquer sur save et qu'on me remplace que j'ai pris la poussière. Je kiffe pas les filles qui kiffent pas les filles. Chérie, c'est pas parce qu'elle est belle que tu es moins jolie. On me dit souvent que j'ai une tête de chat. C'est peut-être pour ça que je suis allergique à moi. J'ai les cuisses qui se touchent parfois. J'ai des belles hivernes quand on m'écoute pas. J'ai un truc de tennis qui m'a touché là où fallait pas. Depuis, j'ai un peu ping-pong. Oui, c'est qui. Je vois ma vie comme les pages d'une bande dessinée. J'aimerais effacer certaines cases. À me faire draguer par des alligators. Un peu bouffi, un peu mal dans leur corps. Parfois je me sens comme un garçon. Ça me fait du bien, j'ai l'impression. Et si je te parle mal, c'est que je me parle mal. Bah les pattes, j'en fais pas un drame. J'ai les cuisses qui se touchent parfois. J'ai des belles hivernes quand on m'écoute pas. J'ai un prof de tennis qui m'a touché là où fallait pas. Depuis j'ai un peu ping-pong ding-dong. J'ai les cuisses qui se touchent parfois. J'ai des belles hivernes quand on m'écoute pas. J'ai un prof de tennis qui m'a touché là où fallait pas. Depuis j'ai un peu ping-pong ding-dong. Oui, c'est qui.
Ok, bah viens, surtout enlève tes chaussures, hein. Moi je j'aime pas trop la poussière. Ouais, y'a pas de problème, par contre y'a pas mal de scratch, ça va, t'aimes pas trop, enfin le bruit ça dérange pas. Écoute, non, vas-y, essaye. Ok, c'est parfait, putain, t'as des gros pieds. Ouais, je sais, donc c'est comme ça, c'est la vie. Ouais, j'avoue, c'est la vie. Bon, bah tu rentres. Ok. Super.
Voilà, Mickey, la petite chouchou, la nouvelle petite chouchou de Pierre Lapointe qui aime s'entourer de femmes et qui dit certainement comme votre ami Albin de la Simone, car vous avez pas mal de compagnons musiciens français, lui dit qu'il est impressionné que les très jeunes femmes aujourd'hui dans la musique soient aussi épanouies et aussi compétentes que lui. Il lui a fallu beaucoup plus d'années pour s'assumer comme chanteur et être à peu près content de ce qu'il faisait et de ce qu'il fait.
Ben, je pense que ça fait partie de l'évolution de l'être humain, hein, de génération en génération, ça va de plus en plus vite.
Ouais.
Et c'est rassurant.
Il y a des chanteuses très douées à 20 ans, quoi.
Oui, oui, oui. Et puis, mais c'est surtout qu'avec la technologie aujourd'hui, on peut arriver à faire à peu près tout seul. Alors qu'à l'époque, on était dépendant des décisions de plein de gens autour de nous, qui souvent prenaient même pas la peine de nous comprendre. Donc, c'est un peu l'âge d'or, en tout cas le début peut-être de l'âge d'or des autodidactes. Mmh. Et ça, ça donne beaucoup, beaucoup de liberté. C'est beau.
Vous êtes plus heureux aujourd'hui comme chanteur qu'à vos débuts, au début des années 2000 ?
Ah mon Dieu, oui. C'était compliqué. C'est un métier stressant, hein. Les gens idéalisent un peu, mais c'est un métier très, très stressant où on doit travailler comme des dingues pour arriver à sortir du lot, puis à prouver aussi quand on est arrivé à une certaine stature de popularité. Il faut rester là, il faut prouver qu'on est intéressant, puis qu'on continue à être pertinent. Donc, c'est des métiers épuisants.
L'essentiel, c'est de durer, disait le philosophe.
Ouais. En fait, le vrai grand défi, c'est de durer. Parce que des carrières de plus de 5-6 ans en chanson...
On va parler de quelqu'un
que
qui, est,
5, 6 ans, c'est
qui a un peu plus de 5-6 ans, c'est Charles Bois.
Ah ben Charles Bois, oui.
Bah vous parliez de lui comme d'un grand-papa, si je puis dire. Quelqu'un qui compte. Et un jour, vous êtes allé vers lui en disant, Robert Charles Bois, je vous veux finalement comme ami, parce que je connais votre répertoire par cœur. Et il s'est rendu compte, en parlant avec vous, que c'était du sérieux.
Ah oui, mais j'ai décortiqué l'œuvre de Charles Bois. J'ai même construit le début de ma carrière en regardant comment lui avait construit son début de carrière. C'est-à-dire qu'il a commencé en faisant de la vraie chanson, un peu, j'ai envie de dire, proprette, comme ça se faisait dans les années 60. Et à un moment donné, il est allé en Californie, il a tout fait exploser. La phase psychédélique de Robert Charles Bois, pour ceux qui ne connaissent pas, avec des chansons comme Tout est quartier ou Lindbergh ou California, ou, c'est un album, mais c'est une période qui est hallucinamment extraordinaire. Ça a été pour la première fois la chanson francophone a explosé et est devenue aussi cool, sinon plus cool que la chanson anglo-saxonne.
Mais d'ailleurs, quand il arrive en France, il fait tout exploser aussi.
Ah
hein,
oui,
ben
les Français ne comprenaient plus rien. Et après ça, Dufresne est arrivé, elle a fait la même chose en étant en plus une femme. Et là, il faut juste remettre en tête déjà le contexte du statut de la femme dans les années 60. Chanter ce que Diane Dufresne faisait à l'époque, c'était révolutionnaire et extrêmement courageux.
Ouais. Ouais. Sur le plan là aussi de, par exemple, de la liberté sexuelle.
Oui, complètement. Et puis d'écrire aussi une réalité urbaine qui était nouvelle pour les femmes de chez nous. Avoir de l'argent, travailler, être indépendante, baiser à gauche, à droite, ouais. Avoir le pouvoir de décider. Financier et psychologique et social. Chez nous, ça a bougé très, très vite. On est un pays où, je dis un pays en parlant du Québec, mais bon, le Canada aussi, où les femmes ont toujours eu énormément de place. Et d'ailleurs, si on peut vivre en étant gay, en étant aussi libre chez nous, c'est parce que la femme a pris de la place, a pris sa place.
On va écouter chanter, parce que c'est votre désir et c'est notre plaisir, Diane Dufresne, « Rock pour un gars de bicycle ». Pourquoi oui. Cette chanson?
Ben, c'est un texte de Plamondon déjà et c'est un clin d'œil à l'homme à la moto de Piaf. C'était dans les années 70. C'était sur l'album « L'Opéra Cirque ». Et je me sens bien, qui est un album double, en fait, qui est un album concept avec deux univers différents sur chacun des côtés du vinyle. C'est cet album-là qui a donné naissance à Starmania. Parce que Berger est tombé sur l'album qui avait été refusé par toutes les maisons de disques en France parce que trop rock, trop sauté, trop fou. Et Berger a appelé Plamondon en disant « Je viens d'écouter cet album-là, il faut qu'on fasse un opéra ensemble, j'ai une idée, Starmania, machin. » Parce qu'il n'y a aucun Français qui peut écrire des textes comme ça. Il y a juste un Nord-Américain qui peut faire ça. Et Diane Dufresne, ben, c'est Diane Dufresne. Voilà, écoutons-la.
Vous dedans, là, quand c'est lui qui pense, il fait rien qu'un pas, puis tout le monde se tâche. Je sais pas d'où ce qu'il vient, je sais pas où ce qu'il s'en va, mais moi ça me fait rien, je marche dans ses pas. Il vient du ciel, ou ben du Texas, c'est-tu Jésus-Christ, ou ben Barabbas, il est voit, tout le monde fait comme lui. Il fait rien qu'un pot, et puis tout le monde me suit. Au tribut de l'an, attends, c'est lui qui pense. Il balance les hanches comme un joueur de balancier. Qu'à le voir bouger, j'entends de la musique. Regardez le monter à cheval sur son PC.
Ça fait du bien d'entendre Diane Dufresne crier comme ça dans un micro, il y a quelque chose de jouissif.
Et puis tous ces octaves, cette possibilité d'aller très très haut, de se mettre à crier.
Extraordinaire, Dufresne.
Grande liberté sur scène. Il faut se souvenir qu'elle a rempli des stades entiers au Québec.
C'est la seule femme au Québec, et probablement une des rares canadiennes, à avoir rempli le stade olympique avec un spectacle qui s'appelait Magie Rose, où elle a demandé à 50 000 personnes de s'habiller en rose. Donc, il y avait 50 000 personnes qui se baladaient. La ville de Montréal était toute rose. Jacques Higelin était venu chanter avec elle, d'ailleurs, au Stade olympique à l'époque. Donc, c'est vraiment un monstre sacré. Et puis, elle le sait parce que je lui ai dit des milliards de fois, mais c'est quelqu'un qui m'a appris énormément, sans même qu'elle le sache à l'époque, moi, la regarder, de voir la liberté qu'elle avait, et m'a donné cette liberté-là, d'aller là où j'avais envie.
Vous, comment elle se traduit sur scène, votre personnalité? Il y a déjà le look, il y a l'attention faite au décor, à la scénographie, vous faites vraiment attention à tout.
Oui, en fait, je fais attention à tout. J'ai un cadre très, très précis, mais maintenant, à l'intérieur du cadre, tout est absolument libre. Je prépare pas nécessairement mes interventions entre les chansons. Il y a des trucs qui finissent par se répéter, que je place, mais c'est jamais écrit. Il faut surtout pas être dans le contrôle quand on est sur scène, parce que ça fait des choses statiques qui lèvent pas. Et moi, je veux créer des moments. Donc, si à un moment, je me trompe dans mes paroles, je suis le premier à dire « Ah, on arrête, on recommence. » Si je me trompe encore, je dis « Hey, vous savez quoi, je vais la faire au rappel, elle me fait chier en ce moment, on reprend ça. » Tout de suite, souvent, en commençant le spectacle, je me mets à parler aux gens, comme je vous parle à vous en ce moment, très très naturellement, pour dire on est tous au même endroit, puis on va passer un beau moment ensemble.
Mais ça, voilà. Il faut des années de métier quand même. Hein?
Ouais, mais je l'ai fait très vite parce que je me suis fait vite emmerder en allant voir les shows des autres, qui étaient trop placés. Donc, moi, j'essaie de tout de suite créer un lien vivant.
Les choses vivant, trop placées, c'est joli comme expression. Ouais. On va écouter un certain Pierre Lapointe.
Ah, on pas va... lui on va... Pas encore lui.
On va l'écouter sur une vingtaine d'années, puisque le premier disque date de 2004, et ce sont les choix subjectifs de notre réalisatrice Anne Weinfeld.
quand les funérailles de ballet, là où les gens baillent en anglais, font que même la vieillesse emprunt de paresse finit par doubler le masque d'Orphée. Quand l'hypocrisie est de mise entre la peau et la chemise, que la rivière coule et que tout déboule, malgré le sang et les dents qui cassent. J'entends toujours qui m'appelle, les cris de leurs deux maîtres rebelles, comme autant des amours, autant des tourterelles. C'était le temps d'avant, les alentours, c'était le temps d'avant, où toi mon pauvre amour, je sais qu'au souvenir n'enraye pas la mire, qu'il suffit de tomber pour être projectif. Fonçant droit devant, toujours devant, sans regard derrière, sans craindre le néant. Qui sait si j'ai eu tort de proclamer sa mort au milieu de la nuit, au beau milieu de la nuit. Allez-y, criez plus fort, vos cris seront ma mort, comme un geste précis, un geste bien trop précis. Chaque chagrin avale son lot de tristesse fugitive. Alors on réchauffe contre nous nos joies répétitives, caressant les cheveux de notre enfance éthérée, lui répétant qu'il est encore trop tôt pour crier. On a appris à sourire comme des hommes bien élevés, pour détourner l'attention de nos sexes souillés. Mais on a oublié de nous montrer comment faire pour trouver l'amour et lui prouver qu'on peut. Quand les doutes arrivent, que la honte récidive, nos joies répétitives savent nous rassurer. Je suis entré dans la pièce sans qu'elle me voie, elle attachée par une laisse au piano droit. J'ai voulu prouver ma foi en une force suprême. J'ai laissé glisser mes doigts et lui ai crié je t'aime. Les notes du piano droit suivait sa voix comme un corps sous la secousse des jours trop froids. Je lui ai laissé goûter la sainte crème saupoudrée de jaune joie, de sucre terre. J'ai volé dans le ciel les mains pleines de rêves, poussé par la chaleur du soleil et des vents doux. J'ai laissé les distractions se tuer entre elles, et j'ai volé au loin, au bien trop loin de toi. Je déteste ma vie, c'est long ma vie sans toi. Je sais trop que ma place est dans tes bras. Que seul chez toi, quand le soleil se couche, que tu me vois sourire, que tu m'entends penser à toi, que le souvenir de nos deux corps nus qui se touchent fait que tu te sens encore tout près de moi, que la séparation, bien que nécessaire, n'est que pause pour laisser à la raison le temps de comprendre chacun des mystères qui unit deux êtres de passion, que tu te répètes comme une petite prière, que notre amour sera la plus belle des maisons.
Ans à peu près de la vie de Pierre Lapointe, mesdames, messieurs. C'était mignon parce que vous êtes écouté avec un sourire.
C'est que je m'écoute jamais ou presque.
Regardant un aîné regardant ce qu'il a été plus jeune.
Oui, mais c'est drôle parce que, comme je dis, j'écoute plus ces chansons-là où c'est très rare. Donc là, d'être dans ce contexte-là puis d'entendre ça, les choix sont. Bravo à la réalisatrice qui
Anne,
a fait
bravo.
Le montage. Bravo à Anne. Ça me touche que ces choix soient arrêtés sur ces chansons-là parce que ça me fait plaisir. Barbara, c'est une chanson très étrange que j'ai faite sur Punk, un album justement où je voulais être le plus libre possible.
Ouais, elle est belle cette chanson.
Où je m'interrogeais sur qu'est-ce qu'est la pop. J'en étais venu à la conclusion à l'époque que pour moi le sujet le plus pop de l'humanité c'est la mort, parce qu'on essaie tous de meubler le temps avant qu'elle arrive, et puis on essaie de se faire croire qu'on sait pas qu'on va mourir alors qu'on est tous hyper conscients, je pense qu'on n'est pas éternel.
Encore une fois présente dans le dernier disque.
Hein. Oui, très très présente dans le dernier disque, donc oui ça me fait plaisir d'entendre ma voix aussi qui change, les procédés aussi de mix de son, comment on travaillait sur certains albums, comment c'est... Bon, ça m'émeut, il y a plein de souvenirs qui remontent. Moi, c'est pas juste des chansons, c'est aussi... Je vois le studio, je vois les gens avec qui je travaille, comme La plus belle des maisons qu'on vient d'entendre. Bon, c'est une de mes plus belles peines d'amour, je vais dire ça comme ça.
Tout simplement la guitare.
Ouais, tout simplement, puis c'est Albin de la Simone qui a réalisé l'album, et puis c'est un beau souvenir cet album-là. Pour Déjouer l'ennui, on a enregistré ça avec que des copains à Montréal. Albin était à Montréal avec sa copine de l'époque et leur fille, et puis c'est que des beaux souvenirs. Il y a beaucoup, beaucoup de beaux souvenirs dans ce qu'on vient d'écouter.
Alors, il y a quelque chose d'assez drôle, d'ailleurs. J'ai noté les mots vieillesse, hypocrisie, mort, chagrin, tristesse, sexe souillé, il y a quand même corps nu qui se touche, trouver l'amour et je déteste ma vie. Le programme est très déprimé, mais vous n'êtes pas quelqu'un de déprimé. J'ai quelqu'un en face de moi de joyeux, qui n'arrête pas de sourire.
Oui, j'ai appris, je pense que... C'est drôle, quand j'étais enfant, je suis tombé sur un documentaire à Télé-Québec, la télé nationale québécoise, et puis c'était sur le gène du bonheur. Il disait qu'il y avait des enfants qui naissaient avec le gène du bonheur. Et moi, j'étais un enfant à l'époque, et j'ai regardé ça, et je disais, moi, j'ai pas le gène du bonheur. Et dans le documentaire, il y avait un psychologue qui disait, oui, mais les enfants qui ont pas ce gène-là peuvent apprendre par mimétisme, en regardant d'autres enfants qui ont le gène du bonheur. Donc, je me suis entouré de gens heureux et j'ai appris comment être heureux. Et puis, j'ai appris à comprendre ce sentiment-là. Et,
donc, vous êtes heureux.
Ça a pris du temps, mais je dirais que depuis à peu près 7-8 ans, oui, je suis plus léger, je dirais ça.
Alors le que bonheur... vos chansons ne le sont pas
non,
toujours.
Non, mais le bonheur, c'est une affaire survendue. Là. C'est un truc pour nous faire acheter des produits un peu partout. Ça n'existe pas, le bonheur.
Il y a des moments, quoi.
Il y a des moments, c'est des petits spasmes qu'on a de légèreté, mais la vie, c'est pas que lourd et c'est pas que léger non plus.
Et c'est ça qu'on chante.
Et c'est ça qu'on chante. Et puis les chansons, c'est toujours très lumineux. Par contre, il y a de la lumière qui se dégage de mes chansons. Justement, parce que j'essaie de trouver l'équilibre entre un discours qui peut être parfois assez pessimiste ou sombre et de la beauté, de la grande beauté, de la douceur et puis de l'étrangeté aussi qui dégage de la beauté.
On va écouter Philippe Catherine, Pierre Lapointe, parce qu'il fait partie de vos choix, le titre « Dormir en cuillère ». Alors vous avez pas mal de points communs avec Catherine, notamment son goût et votre goût des arts plastiques.
Oui.
Catherine expose régulièrement, il dessine beaucoup depuis toujours, il fait aussi des sculptures.
Des sculptures qui est exposée à Montréal.
En France aussi à plusieurs reprises.
On en est beaucoup à Montréal.
Notamment un personnage récurrent, gros et rose.
Oui, très très beau, très charmant, très drôle
aussi. Et vous avez fait des arts graphiques avant de vous jeter dans la chanson.
Oui. Et je dessine aussi, mais là, peut-être que bientôt on verra mes trucs, mais pour tout de suite, personne n'a rien vu.
Quand donc il y a des artistes contemporains qui travaillent avec vous sur vos shows.
Ah oui, énormément. Ben, j'ai travaillé avec David Atmed, entre autres, qui est un de nos plus grands sculpteurs. Je l'appelle Altmej, A-L-T-M-E-J-D. Allez voir son travail, vous allez être sous le choc. C'est extraordinaire. Et il évolue, mon Dieu, d'année en année, son travail prend de l'ampleur. C'est extraordinaire. C'est vraiment un des plus grands artistes canadiens de notre histoire, notre grande histoire de l'art.
Vous venez d'un milieu modeste, Pierre Lapointe.
Oui.
On ne vous a pas spécialement appris la chanson ou fait écouter des chansons. Mais en revanche, vos parents s'intéressent à l'art contemporain. Ou... Est-ce qu'il faut dire s'intéresse ou s'intéresser pour vos parents? Vous
êtes toujours... Oui, ils sont vivants encore.
Ils sont toujours vivants.
Ma mère voulait devenir peintre.
Ouais.
Elle m'a initié à tous les mouvements artistiques du passé. Les Dada, les surréalistes, l'école du Bauhaus. Donc, déjà jeune, j'ai bu ses paroles et puis j'ai fouillé dans les livres avec elle à la bibliothèque. J'ai été élevé dans un milieu où la culture était quand même valorisée.
Mais ce gamin-là, il aurait dû être commissaire d'exposition. Aujourd'hui, il est chanteur.
Oui, ben ça c'est une erreur de la nature. Je pense que déjà enfant, j'étais musicien quand j'étais bébé. Et puis j'ai voulu aller en théâtre, j'ai voulu faire des arts visuels. Et puis ben, c'est la musique qui m'a rattrapé.
Et puis l'écriture, vous avez écrit des chansons très tôt. Hein.
Oui, mais j'ai jamais, je vais dire quelque chose d'assez... J'ai lu mon premier livre au complet il y a à peu près 3 ans. Je suis dyslexique, pour moi, c'est difficile pour moi de me concentrer sur quelque chose, c'est impossible ou presque. Ça commence à être plus facile, on dirait que mon cerveau s'est calmé. Probablement que mes chimies s'équilibrent avec les années, mais toute cette capacité d'écriture, c'est drôle, quand j'ai commencé, tout le monde pensait que j'avais lu les grands poètes et tout. Moi, j'ai appris la littérature par la chanson et par le théâtre. Parce que justement, il y a du mouvement et puis mon attention était là, mais c'est très... J'ai décidé de ne pas avoir honte de le dire, mais c'est pas une fierté pour moi de dire que je suis pas capable de lire un livre ou presque. Mais c'est vraiment une incapacité physique. Maintenant... j'ai besoin des mots et je les manie assez bien. Je pense que je peux me définir aujourd'hui comme un poète.
On n'entend pas du tout une dyslexie.
Non, mais le cerveau est complexe. Hein. Tous les êtres humains sont complexes. Maintenant, c'est comme le piano. J'ai fait 50 cours piano classique. Je ne suis toujours pas capable de lire la musique. Mon professeur me faisait jouer des pièces. Si elle avait le malheur de les jouer avant, je les retenais toutes, puis je lui jouais après. Donc, elle ne me les jouait plus. Donc, je composais au lieu des mélodies, au lieu de travailler mes pièces qu'elle m'imposait. Je faisais une pièce par année. Et puis, c'est comme ça que j'étais. Maintenant, quand j'ai arrêté le piano, elle me regardait avec un sourire en coin. Puis elle a dit, Pierre, j'ai jamais vu un musicien comme ça. Je pense que tu es paresseux. Elle associait ça à de la paresse, mais j'étais pas capable. C'était physique. Elle me dit, je vais juste te dire un truc. La musique va revenir te chercher par le collet. Et puis, ça va être ta vie. Parce que je peux pas comprendre, j'ai jamais eu un étudiant comme toi. Puis moi, je m'en allais en théâtre, puis j'étais genre, ouais, c'est ça. La musique, je suis pas bon en musique. Tout le monde me dit que je suis pas bon, parce que j'ai pas des bonnes notes et je comprends pas la théorie musicale. Mais elle avait raison, Chantal, mon professeur de piano.
Sainte Chantal.
Oui, Sainte Chantal est venue voir mes concerts plusieurs années après, puis j'ai dit, t'avais vu juste, je suis musicien. Mais je suis aussi plasticien, les gens verront plus tard, mais je fais toutes sortes de trucs.
Vous me faites rire parce que vous êtes capable de dire, oui, maintenant je suis poète, je suis aussi
mais ça m'a pris des années. Ça m'a pris des années avant d'être capable de l'assumer. Mais moi, je suis pas poète, je suis pas chanteur, je suis pas musicien.
J'entends pas de la prétention. J'entends le plaisir d'être ce que vous êtes aujourd'hui.
Puis au final, je suis obligé de me rendre à l'évidence. Je suis quand même étudié dans les lycées et les collèges en littérature au Québec.
Là. Ça, c'est une belle victoire.
Oui, parce que mes textes, je pense qu'ils ont aussi de la substance. Voilà.
Vous êtes aussi babard que moi.
Mais il faut, faut arrêter un jour. Ben oui.
Faut qu'on écoute Philippe Catherine, bien sûr, avec plaisir. Dormir en cuillère.
Dormir en cuillère avec toi. Dormir en cuillère avec toi. Me réveiller, j'ai un peu froid. Je te fais un café long. La radio, les chansons. Tiens, le PSG gagne au Barça. Le climat, c'est n'importe quoi. Dire que je suis comme tous ces cons qui peuvent pas changer de direction. Enfant arrive en criant, mais il crie en se marrant. Je suis pas sûr qu'il soit plus adapté. Moi, je ne l'ai jamais été. Je Je suis habillé pour l'hiver. Zouzou aussi veut prendre l'air. Je te crie, j'y vais chérie. Tu dis oui en montrant ton derrière. Téléphoner à Eddy. Zouzou court après la perdrix. Les nuages se dégagent. Laisse le soleil sur le bocage. Dormir en cuillère avec toi. Se promener dans les sous-bois. Lancer loin une pomme de pin. Comme ça, pour rien. On fait toujours la même chose. Mais c'est toujours différent. Il n'y a jamais de pause. Le temps avance tout le temps. On fait toujours la même chose. Mais c'est toujours différent. Il n'y a pas de bouton pause. Ou alors c'est stop éject définitivement.
Philippe Catherine, est-ce que vous vous seriez montré nu au JO si on vous avait proposé de participer à la cérémonie, Pierre Lapointe ?
Bah oui, mais ça n'aurait pas trop marché avec mon personnage, avec ce que je suis. Maintenant, Philippe Catherine, ça marche totalement avec sa démarche.
Mais c'est vrai qu'on se pose à peine la question.
Oui, c'est ça, non, mais moi, ça aurait été surprenant. Par contre, je dormirais bien en cuillère avec Philippe Catherine, moi. Je trouve qu'il a l'air doux. J'aurais aucun. Alors, Philippe, si tu nous écoutes, on s'est croisé une fois, on se connaît pas bien, mais sache que si tu cherches quelqu'un pour réchauffer ton lit, je suis prêt à aller dormir en cuillère avec toi.
Et voilà, un scoop France Inter. Pierre Lapointe veut dormir en cuillère avec Philippe Catherine, qui dirait certainement, ben viens.
Oh bah oui, je suis certain. Non,
je suis sûr qu'il dort avec le pouce dans la bouche.
Oui, moi aussi, je
voilà,
suis certain.
Voilà, il y a un côté nounours. Oui. On va écouter Junior, trio pop-rock formé en 2013 à Paris, autour d'une chanteuse, autrice, compositrice, qui est Anna Jean. Junior, ça fait partie de vos choix, Pierre Lapointe.
J'adore Junior. Je suis tombé sur les chansons. Leur premier album, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je suis tombé sur le premier album de Junior. Il faut savoir que moi, je suis un grand, grand fan de musique des années 60. J'ai décortiqué tout ce qui se passait un peu partout dans le monde. Et Junior incarne quelque chose qui rappelle les années 60, mais en étant totalement actuel. J'adore écouter Junior. Voilà. Je déclare mon amour. Si vous m'écoutez, les membres de Junior, sachez, je vous adore.
Fait court.
Junior Monumental dans la balade de Pierre Lapointe avec qui on va se quitter, mais je voudrais qu'on parle quand même encore un peu de ce disque. Vous m'avez gentiment apporté le vinyle, Pierre Lapointe.
Il est beau le vinyle.
Il est beau le vinyle.
C'est un beau vinyle, un bel objet qu'on a
vous
fait.
Vous prenez une claque de fleurs sur le visage.
Ouais, c'est les merdes de la vie qui nous attaquent, mais ça reste beau comme c'est un bouquet de fleurs. Donc je me suis dit, c'est la poésie de la vie.
10 chansons démodées pour ceux qui ont le cœur abîmé. Et je lis à la fin, vous avez noté un petit mot là sur le vinyle. Le plus à la mode des chanteurs démodés.
Ouais,
ça vous adorez dire que vous êtes démodé.
Oui, alors que je suis au courant de tout ce qui se passe,
oui.
Et puis je suis très très fashion.
Vous avez prouvé que vous étiez curieux.
Oui, et puis mais c'est de l'autodérision. Puis j'essaie toujours, sur mes albums, dans les remerciements, j'écris toujours une petite phrase un peu, dans mes débuts, à un moment, j'écrivais à tous ceux qui me détestent, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ne m'aimaient pas. Un jour, vous allez manger dans ma main, vous allez adorer ce que je fais, vous serez tous à mes genoux. J'écris des trucs comme ça, puis là, c'est ça. C'est moi le plus démodé des chanteurs à la mode.
Des chansons pour cœur abîmé, Pierre Lapointe. Est-ce que ça répare une chanson ?
Je sais pas si ça répare, mais ça apaise quelque part, oui.
Ça console ?
Ça console, ça apaise, on se sent moins seul. Je le vois dans mes spectacles, je trouve ça bien, parce qu'en France, les gens qui viennent me voir, comme je suis moins connu qu'au Québec, ils m'ont trouvé, ils m'ont découvert, ils sont fiers d'être là, ils sont excités, je fais moins partie des meubles. Donc, ils viennent et souvent, ils se laissent aller plus. J'ai ramassé des gens après les spectacles, mais en larmes. Les gens étaient... Mais j'ai jamais pleuré comme ça dans un spectacle. Ça me fait plaisir de voir que je suis un éveilleur de sensations, qu'elles soient tristes ou belles. C'est notre travail quand on est sur scène, c'est notre responsabilité.
Il y a une chanson qui évoque ce que vous percevez en ce moment, depuis que votre mère souffre de la maladie d'Alzheimer. Je ne sais pas si votre mère nous écoute, en tout cas on la salue, si vous lui faites écouter le podcast.
Peut-être que je vais lui faire écouter.
De la balade. Peut-être. Bonjour madame, puisqu'elle est toujours présente avec vous.
Oui.
Il y a des moments plus difficiles que d'autres.
Oui, là je dirais qu'elle est bien. Elle est, je dirais, protégée de trop de stimuli, donc elle s'est apaisée beaucoup, et c'est très agréable de la voir.
Et vous allez la voir beaucoup.
Je vais la voir dès que je peux, le plus souvent possible.
Est-ce qu'elle a écouté comme les pigeons d'argile?
Écouter les pigeons d'argile, et ça m'amuse, c'est triste, c'est horrible, puis en même temps, s'il y a quelque chose d'assez drôle, farfelu, c'est qu'elle a redécouvert la chanson à chaque fois qu'elle écoutait la chanson, parce qu'elle se souvenait plus que je lui avais fait écouter, comme l'album au complet, elle l'a redécouvert. Ce que je trouvais assez fascinant, c'est qu'aux mêmes endroits, sur les mêmes chansons, elle se mettait à pleurer au même moment, toujours. Donc je me disais, ça doit être là le climax de la chanson, ça aide à identifier ça. Et puis elle était très émue. Elle essaie encore de me protéger. Elle m'a regardé les yeux pleins d'eau, puis elle a dit « Mais c'est pas normal qu'un fils vive ça. Tu devrais pas avoir à vivre cette peine-là, puis à vivre ces situations-là. » J'en parle, je suis ému. Mais c'est aussi ça, la vie. Des choses qu'on devrait pas vivre. Voilà.
Eh bien, on écoute de Pierre Lapointe, par Pierre Lapointe, comme les pigeons d'argile.
Ça ne devait pas être ça. On ne devait pas en arriver là. Toi qui pleure sur mon épaule, c'est comme si s'inversaient les rôles. J'espère que tu comprendras mes silences maladroits. Pas facile pour un fils de trouver les bons mots parfois. Quoi dire à sa mère qui pleure, qui ne cache même plus sa peur, quand le futur dessine des souvenirs flous qui déclinent. La mémoire est si fragile, veulent comme les pigeons d'argile, effacent de nos cœurs même les plus belles idylles. J'avoue, je n'ai jamais vraiment compris ta façon de jouer avec la vie. T'as toujours cru que le bonheur avait un prix. Est-ce que c'était un pressentiment? Sentais-tu déjà les éléments attaquer ta mémoire comme un poison violent? Je pense à cette jeune fille, à ses grands yeux bleus qui brillent, qui rêvait de voyages, d'étoiles et de grands paysages. Aurait-elle fait les mêmes choix, mené les mêmes combats, si elle nous avait vu pleurer en ce moment, toi et moi. Aurait-elle couru le monde, joué les âmes vagabondes, de peur de ne pas tout voir, pour ne pas céder au désespoir, au lieu de se résigner devant les fatalités qui se sont imposées sans jamais vraiment l'épargner. Je sais, c'est trop tard pour les regrets, les rêves conjugués à l'imparfait, maintenant que le futur est plus abstrait que jamais. Ma voix saura-t-elle te rassurer? Te sentiras-tu abandonné quand de ta mémoire mon nom se sera effacé? Mais je veux que tu saches, quand tes souvenirs se seront tous envolés, je serai là pour te les raconter.
C'était bien de vous avoir avec nous à Paris.
Ça me fait très plaisir.
Monsieur le Québécois.
Oui, et je reviens. Vous savez, je passe 4 mois par année à peu près à Paris. Ouais. Hein. Et puis, ben, je vais revenir en mai. Je vais faire l'Olympia pour la 3e ou 4e fois de ma vie. Le 12 mai prochain, là, je dis, achetez vos places, il en reste presque plus. Sautez sur les billets. Et puis, il y a plein de dates aussi. Je sais qu'à Nantes, on a rajouté une supplémentaire. Les billets sont vendus hyper vite. Donc, allez voir sur pierrelapointe.com. C'est la première partie de la tournée. C'est ça qui va nous donner la chance de peut-être revenir.
J'ai des dates
ou 3 fois.
Le 7 mai à Rouen, le 8 à Bruxelles, le 15 à Nantes, le 17 à Bordeaux, le 18 à Toulouse, etc.
Oui,
redites-nous votre site.
Pierrelapointe.com, c'est simple, simple, simple. C'est mon nom, plus un .com.
Et Instagram aussi.
Et Instagram, suivez-moi, il y a plein de petites aventures, des anecdotes en vidéo. Je fais des vlogs, comme les jeunes disent, sur mon quotidien. D'ailleurs, il y a un petit vlog sur votre émission.
La balade sur France Inter. Ouais, oh là, ouais. Là. Ruez-vous sur l'Instagram de Pierre Lapointe. À bientôt.
Ça m'a fait extrêmement plaisir de venir vous voir. Merci.
Anne Weinfeld a réalisé cette émission. Fanny Leroy m'a aidé à la préparer. Valentine Chedebois a programmé la musique. Il y avait aujourd'hui la technique Nicolas Delmas. Demain, Vincent Dedienne nous rend visite dans le Grand Atelier. Il joue deux pièces de et autour de Jean-Luc Lagarce au Théâtre de l'Atelier à Paris. Rendez-vous s'il vous plaît à 17h sur France Inter.